Mon nom est Monique Vincent. Bienvenue au Petit carnet de l'aidant, une série de 12 balados rendus possibles grâce à l'ASF Lanaudière et le soutien financier de l'Appui pour proches aidants. Dans les différentes pages de notre Petit carnet de l'aidant, nous abordons différents sujets concernant les impacts financiers et fiscaux reliés à la situation des proches aidants. Nous vous offrons également un aperçu des documents légaux qui pourraient leur être utiles. Pour en apprendre davantage sur le sujet, nous accueillons Olivier Grégoire, conseiller en défense des droits et agent de communication à l'ASF de Lanaudière. Bonjour Olivier.
Bonjour Monique.
Vous allez bien?
Très bien, vous?
Oui, très bien, merci. Perdre un parent ou un proche, quel qu'il soit, c'est souvent une épreuve difficile et triste à traverser. Le départ de l'être cher laisse un grand vide dans le cœur des survivants. Parler de la mort, ce n'est pas l'annoncer. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Mais en fait, préparer sa fin de vie simplifiera la tâche des proches aidants et de l'entourage pendant la période du deuil. Dans un précédent balado, Olivier, nous avons parlé de la procuration pour nous protéger en cas de perte de capacité physique ou cognitive temporaire. Aujourd'hui, nous abordons un sujet un petit peu plus délicat et tabou, encore pour bien des gens, la préparation de sa fin de vie. Quels sont les documents qu'il est préférable de prévoir pour faciliter la tâche à nos proches aidants?
Il s'agit essentiellement du testament, des funérailles, du dépôt des volontés et des directives médicales anticipées.
Et dites-moi, est-ce que le testament est obligatoire de nos jours?
Au Québec, en l'absence d'un testament, c'est ce qu'on appelle la succession légale qui s'applique. Autrement dit, c'est la loi qui va déterminer qui va hériter et qu'est-ce qu'ils vont recevoir.
Mais si je vous comprends bien, c'est préférable d'en faire un testament.
Certainement, parce que le testament, lui, il vous permet de déterminer qui va hériter de vos biens puis la part de chacun. Sinon, comme je viens de vous dire, c'est la loi qui décide pour vous.
Et la loi, elle dit quoi exactement?
Ce qu'elle dit, c'est qu'au décès, il y a d'abord le partage du patrimoine familial. Ensuite, c'est les règles du régime matrimonial ou de l'union civile sur les biens, c'est-à-dire votre contrat de mariage. Et finalement, les dettes, les impôts et les dettes reliées au décès. S'il reste quelque chose, puis s'il n'y a pas de testament, mais la succession va être partagée de cette façon, entre le conjoint survivant pour une part sur trois et les enfants qui auront le deux tiers, et entre le conjoint survivant et les autres parents du défunt si celui-ci n'avait pas d'enfant dans une proportion de deux tiers pour le conjoint survivant et un tiers pour les autres parents.
Quand même. Mes parents, je vous partage une petite histoire, mes parents ont toujours dit que si l'un des deux venait à mourir, que l'autre héritera de tout. Est-ce que c'est exact ou c'est plutôt la succession légale qui s'applique dans ce cas-ci?
Vos parents ont sûrement un contrat de mariage qui contient possiblement une disposition qu'on appelait « au dernier vivant les biens ». Cette clause testamentaire, elle est dans le testament. Le conjoint survivant devient l'héritier de tout.
Et c'est ça qui fait lieu de testament, donc, même s'il y a des enfants dans les héritiers légaux.
Oui, puis si c'est leur cas et que l'un ou l'autre souhaite donner des biens à d'autres personnes que son conjoint, il y a un testament qui doit être fait. Il est toujours possible de modifier un testament aussi. Puis il faut comprendre que c'est le testament le plus récent.
Le plus récent, ça, j'avais entendu parler de ça. Mais est-ce qu'un testament holographe, là, qui est écrit à la main, c'est valable?
Mais en fait, il y a trois formes de testament. Le testament notarié, testament devant témoin, puis le testament holographe, écrit à la main. Testament notarié, lui, a l'avantage de se retrouver dans un registre officiel, alors qu'un testament holographe, bien, il faut indiquer à une personne de confiance où le trouver. Puis dans les deux cas, les testaments devront être vérifiés au décès par un notaire ou un tribunal, ce qui va entraîner des frais et des délais pour la succession.
Et puis parlons funérailles. Qu'en est-il exactement des funérailles?
Concernant les funérailles, on peut informer son entourage, verbalement ou par écrit, de ses volontés. Mais ces informations-là ne devraient pas se retrouver uniquement dans le testament, parce que les proches ont souvent des décisions à prendre très rapidement suite au décès puis n'ont pas toujours accès tout de suite au testament.
Effectivement, oui.
Les arrangements préalables de services funéraires et l'achat de sépultures sont des préparatifs de fin de vie qui ne sont pas obligatoires. Il existe une loi sous la responsabilité de l'Office de la protection du consommateur qui va encadrer ces activités-là. Il y a aussi maintenant un registre à cet effet pour vérifier si la personne en possède déjà. Moi, j'invite les gens à se renseigner avant de signer tout contrat pour éviter de se laisser guider par ses émotions, vu que c'est des moments difficiles à ce moment-là. C'est une avenue, une alternative non négligeable qui est à considérer. Le dépôt des volontés, lui, permet de spécifier simplement, puis sans frais, les préférences et vos choix lors de votre décès. Ça Ça va comprendre la musique, le genre de cérémonie, les textes qui seront lus, les vêtements qu'on peut porter.
Oh, c'est dans le détail.
Oh oui! Notre préférence, en fait, pour l'inhumation, la crémation ou l'aquamation, les signets, les fleurs, le type de buffet. Il n'y a pas de limite.
Il n'y a pas de limite,
non,
c'est ça.
Pas.
Mais excusez-moi, Olivier, vous avez parlé dans les préférences pour l'inhumation, vous avez parlé d'aquamation. Qu'est-ce que c'est au juste?
C'est un procédé par lequel le corps est décomposé par l'eau et les os sont remis à la famille dans une urne sous forme de poudre, comme lors de la crémation.
Ah, c'est intéressant. Et on parlait de liste de volontés. Où on dépose ses volontés?
En fait, il y a la possibilité de faire affaire avec des maisons funéraires qui offrent de l'aide pour faire et garder gratuitement vos volontés. Vous pouvez aussi les garder chez vous en avisant un proche d'où ces volontés seront. Puis la Fédération des coopératives funéraires du Québec propose un formulaire gratuit qu'on peut remplir soi-même. Peu importe le moyen utilisé, il est préférable d'aviser tout le temps au moins une ou deux personnes de son existence et ou de retrouver...
Effectivement, c'est la base, c'est vraiment
Exactement.
La base. On parle de l'aide médicale à mourir qui est maintenant bien connue des gens pour avoir fait couler beaucoup d'encre dans les dernières années. Mais les directives médicales anticipées sont, quant à elles, beaucoup moins connues. Pourriez-vous nous expliquer la différence entre les deux?
L'aide médicale à mourir, c'est un choix pour les personnes pour qui toutes les options thérapeutiques, curatives ou palliatives y ont été jugées insatisfaisantes, qui préfèrent mourir plutôt que de continuer à souffrir. Ça demeure une intervention exceptionnelle qu'on ne peut pas prévoir, pour laquelle aucun document ne peut être rédigé à l'avance. Par contre, les directives médicales anticipées, ils permettent d'indiquer à l'avance les soins médicaux qu'on accepte ou qu'on refuse de recevoir dans le cas où on deviendrait inapte à consentir à ces 5 soins précis.
Et ces 5 soins, vous parlez?
Oui.
Pouvez-vous nous les décrire?
La réanimation cardio-respiratoire, la ventilation assistée par un respirateur ou par tout autre support technologique, le traitement de dialyse, l'alimentation forcée ou artificielle, l'hydratation forcée ou artificielle. Les directives sont déposées et conservées directement dans le registre des directives médicales anticipées à la RAMQ. Le formulaire et les instructions d'enregistrement au registre sont disponibles sur le site de la RAMQ sous l'onglet « Assurance maladie » ou par téléphone au 1-800-561-9749.
Olivier, je vous remercie encore une fois pour ces précieux renseignements.
Il n'y a pas de souci, ça m'a fait plaisir.
Des outils sont disponibles en visitant le site de Justice Québec au www.justice.gouv.qc.ca, en téléphonant au 1-800-NOTAIRE ou à l'Office de la protection du consommateur. Dans la prochaine page du Petit carnet de l'aidant, on verra comment les bons comptes font les bons aidants. Mon nom est Monique Vincent. Je vous laisse sur ce proverbe finlandais: « La meilleure aide est celle qu'on se donne soi-même. » À très bientôt.